Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de la tech, jusqu'à 20h30, on prend quelques sujets les plus forts du jour et on essaie d'aller un petit peu plus loin, de comprendre ce qui se passe et de débriefer tout ça avec nos experts ce soir. Nous avons Philippe Devost. Salut Philippe.
Bonsoir François.
Qui est stratégique advisor chez Jolt Capital. Encore un Fred. C'est pas possible ça.
Toute l'équipe.
On a toute l'équipe de Jolt Capital.
Absolument.
Yves Maître. Jean Schmitt, maintenant Philippe Devost. Voilà. Mais que se passe-t-il ? Vous faites un putsch ou quoi que ce soit ?
Alors, c'est pas un putsch, c'est simplement la conséquence de la croissance et du chemin que fait Jolt depuis ses débuts il y a 15 ans.
D'accord.
Qui les a quand même conduits à lever leur cinquième fonds, dont la levée n'est pas terminée, mais qui ont déjà closé pas loin d'un demi-milliard d'euros.
Oui.
C'est un des plus gros fonds de deep tech de la place.
Ouais, ouais.
Et le closing n'est pas terminé, puisque leur objectif est d'atteindre le milliard. Et donc, ils sont structurés. Et moi, je les rejoins comme advisor, c'est-à-dire comme conseiller externe sur des sujets.
D'accord.
Et notamment sur les sujets liés à la deep tech et sur la mobilisation de l'écosystème deep tech français, qui est représenté aujourd'hui par l'association France Deep Tech, qui renouvelle son conseil d'administration. Et au titre de représentant des investisseurs, je vais candidater à ce conseil pour le compte de Jolt.
Eh bien, je crois que c'était la présentation du débriefeur la plus longue jamais vue dans Tech & Co, la quotidienne.
Oui, mais c'était intéressant.
Mais c'était intéressant, c'est vrai. Philippe, qui est aussi, alors ça, il le restera toute sa vie, cofondateur de Wanadoo, accessoirement.
Oui.
Mais c'est pas la peine que tu nous expliques.
Non, on a fêté ça hier soir, les 30 ans.
30 ans de Wanadoo.
Oui.
Eh bien oui, incroyable. C'est dingue, hein.
Il y avait qui?
Le temps passe.
Alors, il y avait...
Ah non, mais Fred, tu le relances, on est mort.
Il y avait Michel Bon, il y avait Nicolas Dufourcq, il y avait Yves Parfait, il y avait Roger Courtois, le premier président de France Télécom Interactive. Il y avait vraiment tout. On était plus d'une centaine.
Ah oui.
Alors, vous avez ressorti le Minitel pour l'époque ou pas?
Non, j'ai pas apporté mon t-shirt Wanadoo, sinon là, il faudrait faire une deuxième émission, mais j'avais le t-shirt d'origine.
Wow.
Avec l'abeille dans le dos.
Wanadoo, vous rendez compte un peu.
Voilà.
En tout cas, merci d'être là. Et comme quoi, chez Jolt, ils sont pas trop mauvais parce qu'on a quand même pas mal d'experts qui viennent dans Tech & Co. Ça, c'est plutôt cool. Christophe Honnête n'est pas mal non plus. Salut Christophe.
Bonsoir François.
Senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Merci d'être là. Et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business.
Bon,
t'es pas encore dans un fond, toi? Non.
Non, je touche pas le fond. Elle était facile. Bon, elle était facile.
Oui. C'est bon. Bravo. Allez, on va commencer par ce sujet très intéressant. En tout cas, on constate que l'Europe accélère sur pas mal de sujets liés au numérique et elle a dévoilé aujourd'hui ses propositions pour la souveraineté numérique européenne. L'objectif, il est simple, devenir indépendant des géants américains et chinois en matière de logiciels et d'IA. Astrée Olivier nous explique tout ça.
Il faut réduire la facture européenne en matière de numérique. Chaque année, l'Europe dépense 260 milliards d'euros dans des produits et services non européens. La Commission veut notamment entrer dans la course des semi-conducteurs, explique la vice-présidente de la Commission, Enna Verkunen.
Nous devons nous préparer à conquérir notre part du marché des puces liées à l'IA. On estime que les composants liés à l'IA représenteront plus de 70% du marché total des semi-conducteurs dès 2030. Dans notre plan d'action, nous nous engageons aussi à tripler le nombre de data centers européens dans les 5 à 7 prochaines années.
La préférence européenne sera aussi de mise. Les administrations publiques devront obligatoirement stocker leurs données dans des data centers présents sur le sol européen. Les commandes publiques seront aussi réalisées auprès d'entreprises dont la R&D et les emplois sont basés en Europe.
Nos usines fonctionneront grâce à des logiciels industriels européens. Nos hôpitaux pourront choisir des IA développées en Europe. Nos innovateurs pourront aussi les utiliser pour développer leurs idées et nos startups devenir des leaders mondiaux. Ici même en Europe.
Bruxelles veut aussi lier souveraineté technologique et numérique, mais la Commission a reporté son projet de label vert pour les data centers. À ce stade, le nucléaire français en est exclu, ce qui a provoqué une levée de boucliers.
Voilà, donc reportage signé, je le disais, Astrée Olivier. En gros, ce qui est en train de se passer, peut-être que vous allez évidemment commenter tout ce qu'il a été dit à l'instant, mais en gros, on passe d'une souveraineté numérique défensive à quelque chose de beaucoup plus actif, finalement. Réguler, c'est bien, mais il va falloir essayer de trouver nos propres briques, nos propres solutions dans le domaine du cloud, de l'IA, des puces et des logiciels. Attention, tout ça, ce ne sont que des propositions encore, hein, visiblement. Ces textes doivent être négociés par les États membres, le Parlement européen, avant de devenir loi. Donc, ça va prendre encore du temps, mais c'est intéressant. Qui commence sur ce sujet ? Christophe, tiens, allez, on y va.
Bah, la première chose, c'est que je pense que c'est bien de voir que l'Europe se saisit un peu plus du sujet. Bon, la réalité est quand même complexe puisque je crois qu'on investit, on a plus de 300 milliards de produits et de services technologiques qui viennent sur le marché européen de la part des acteurs américains, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de ce qui est des produits non informatiques. Donc c'est vraiment très très important, et que 80% de nos dépenses cloud dans les entreprises et même administrations, c'est des Azure, Google,
Amazon
etc. Et donc finalement il y a une énorme dépendance. Alors le problème, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui est positif, c'est qu'on se saisit de la chose, mais on va pas pouvoir être souverain du sol au plafond. C'est totalement illusoire. Donc, quand on parle des puces, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, attends, on va quand même pas bâtir un nouveau Nvidia. Et en fait, non, il s'agit de dire, bon, il y a des puces, par exemple, dans le domaine automobile, sur lesquelles on a les moyens. Oui. De faire fonctionner des usines européennes et des composants européens.
Et je
pense que c'est la bonne approche. Il faut avoir une approche un peu de tri sélectif par rapport à toutes ces dépendances. Finalement, la souveraineté, c'est pas d'être totalement indépendant, c'est de maîtriser ses dépendances. Donc, de dire, il y en a certaines, on oublie, on va pas, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est trop tard. Bon, quand c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là où c'est pas trop tard, on dit, privilégions les éléments, européens, donc par exemple les puces pour les voitures. Bon, ça, très bien. Mais là où c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, il y a quand même les régulations qu'il faut faire jouer. Donc le DMA, de ce point de vue, il sert à faire en sorte qu'il y ait la potentialité pour des acteurs européens de venir s'épanouir sur des écosystèmes autres. Mais pour ça, il faut leur garantir une certaine équité de marché. Donc je pense je regrette, c'est pas été encore assez renforcé là. Il faut définir un certain nombre de standards pour les données, ce qui relève évidemment des données extrêmement sensibles. Eh bien, on fait apparemment émerger une nouvelle norme qui est le IEUCS, qui est le norme de cybersécurité cloud européen. Mais quand on regarde un peu dans le détail, elle est beaucoup moins contraignante que le Secnum Cloud. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lobbying extrêmement fort d'un grand nombre d'acteurs et il faut mettre 27 pays d'accord.
Oui, d'accord.
Et c'est souvent sur un petit commun dénominateur qui est moins exigeant. Mais néanmoins, c'est un pas. Et donc, je pense que voilà, c'est la bonne approche. Ça prend malheureusement un petit peu de temps. Et ce qui me paraît essentiel, c'est aussi de mobiliser des fonds européens, on parlait tout à l'heure de la Deep Tech ou d'autres, sur les nouvelles technologies pour se positionner. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, la messe, elle n'est pas complètement dite sur l'IA et sur les agents. Peut-être que les LLM qui aujourd'hui prennent et les infrastructures IA qui prennent une grosse partie de la valeur, il y a aussi toute une partie de la valeur à gagner vers les agents. Et donc, on aimerait aussi voir l'Europe être un peu plus visionnaire et mettre des paquets plus significatifs d'investissement sur des technologies de demain et pas essayer de le faire uniquement sur les technologies sur lesquelles c'est déjà trop tard parfois.
Oui, d'ailleurs on l'évoquait ça il y a deux jours, hein, Fred, c'est 120 milliards sur la table pour tout ce qui est chipset en fait, hein, essayer de reprendre la main, de réindustrialiser.
Exactement.
De créer une usine, je crois, de chipset qui elle-même, à elle seule, coûterait 30 milliards, je crois.
Essayer de faire une filière, quoi.
une filière pour avec ASML, avec
parce que derrière, on fabrique plus de PC, mais on fabrique quand même des super calculateurs.
Exactement.
Ouais. Donc voilà, après,
pour l'automobile aussi.
Pour l'automobile, pour les lunettes, il y a plein de choses.
Philippe, ton point de vue ?
La Commission met le paquet. Bon, ça c'est bien. Elle le fait avec 10 ans de retard. Ça c'est moins bien. C'était quand même assez émouvant de se souvenir que c'est au moment de la crise Covid que subitement des dirigeants de différents grands pays européens se sont dit « Ouh là là !» Mais enfin, ont découvert dans une candeur confondante que 85% des puces à finesse de gravure très très étroite était fabriqué à Taïwan, et que Taïwan, c'était très très près de la Chine continentale, alors que tout ça existait depuis 20... Tout ça était sous nos yeux depuis 20 ans.
Ouais. Moi, il y a la tech, voilà. Mais il y a aussi toute la médecine. On se rappelle de l'épisode du paracétamol, hein. C'était pareil.
Oui,
hein.
Alors, c'est bien, c'est des textes, et comme ça a été rappelé, très justement, c'est des textes qui vont encore devoir être discutés, débattus. entre des pays qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément convergents, puisqu'on va retrouver le jeu habituel où l'Allemagne est toujours quand même assez pro-Intel. La France va pousser ses modèles d'IA. Les Pays-Bas vont protéger ASML comme la prunelle de leurs yeux. Et donc la convergence d'intérêts va être nécessaire pour pouvoir bâtir une indépendance commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on part quand même de très très loin, puisque le degré de dépendance aujourd'hui en termes de technologie, il est de l'ordre de 80%, avec des effets de bord. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps quand Broadcom a racheté VMware. VMware, c'est ce qui permet de virtualiser un PC et c'est utilisé par un très grand nombre d'entreprises. Et que Broadcom a décidé du jour au lendemain de multiplier les prix par, c'était quoi Christophe, 2,5, 3 ?
Oui, plus de 3.
Voilà. 3, oui. Donc, voilà, on a l'impression qu'on découvre que les clés de l'immeuble sont chez un serrurier étranger qui est très gentil, qui est très poli, qui répond au téléphone, mais qui peut changer la serrure sans prévenir.
Et alors que c'est chez nous.
Oui, voilà.
C'est
oui,
ça qui est terrible.
Non, mais c'est ça. Donc, bon, et puis il y a le deuxième oui, sujet, bon. C'est effectivement, tout le monde parle d'infrastructures, d'usines, etc. C'est très bien, on va construire des usines de semi-conducteurs. Est-ce que ça sera uniquement des semi-conducteurs qu'on a conçus nous-mêmes ou est-ce que ce sera une usine additionnelle pour un fabricant de semi-conducteurs américain ? Là, toute la question, elle est dans la captation de la valeur. Et pour moi, le sujet, il est là. C'est souveraineté numérique, ce n'est pas uniquement être capable de dire non aux Américains, c'est de savoir qui appeler.
Fred.
Je trouve très bien que l'Europe et tout ça. Le seul problème, c'est la mise en exécution. C'est-à-dire aujourd'hui, Quant, c'est plutôt français. Alors, certes, ils se sont
alliés. On va en parler après.
On en parle après.
Attention, hein.
Ouais. Parce que on était resté sur le
on reste sur le si
pardon,
tu veux là
j'étais parti moi
l'indépendance technologique sur les puces sur le cloud oui, etc sur les services numériques après on enchaînera avec la décision
j'étais parti sur compte
c'est pas grave
non mais le
il a toujours un coup d'avance Fred c'est
non mais
ça.
Le innovateur le souci c'est qu'on est c'est une Europe à 27 et qu'on n'a pas tous les mêmes arguments c'est-à-dire que dans certains pays quand AWS va venir dire moi je vous mets un gros data center chez vous ben est-ce que ce pays votera? Et c'est un peu comme l'Eurovision. Est-ce que ce pays votera pour le projet, pour un autre projet européen? On l'a vu, hein, dès que Intel avait promis de s'installer en Allemagne, hop, on a entendu des petites levées de boucliers côté français. Donc c'est ça. Je trouve qu'il faut vraiment trouver. Pour moi, il faut choisir ses batailles. Il faut prendre 3-4 filières, enfin 3-4 verticales, et se dire, allez là, et on met tout le monde dedans. On parle toujours de l'Airbus, de la tech, ou je ne sais quoi. Mais voilà, il faut essayer de prendre ces quelques filières, qu'elles soient logicielles, qu'elles soient là pour le coup. Autour des composants. Voilà, l'IA, ça peut très bien être l'IA et la santé. Voilà, on va prendre l'IA et la santé. Et puis on déroule jusqu'où on peut travailler tous ensemble et avec des Anglais. Enfin, peut-être des Anglais, non, et des Allemands, des Suisses, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver et pas chercher tout de suite à avoir un grand plan global.
Je pense qu'il y a quand même globalement un contexte qui fait que ce que tu disais tout à l'heure, à savoir ce prix, cette tendance des Allemands à toujours privilégier plutôt les intérêts des Américains au regard des échanges commerciaux. Ça change ça, parce qu'il y a quand même globalement une prise de conscience avec le kill switch, tout le monde a un petit peu peur. Voilà. Donc là, je pense que le terreau est plus favorable. Il y a des succès. ASML, on peut le considérer comme une sorte d'Airbus, puisque finalement, c'est quand même un géant mondial qui est dans une situation quasi monopolistique et qui est en Hollande. L'idée que tu suggères de dire on prend 3-4 sujets et à ce moment-là il faut que globalement la grosse difficulté c'est d'accepter qu'on va mettre le paquet à un endroit et qu'on ne va pas saupoudrer et pour ça je pense qu'on prendrait 4-5 sujets à 4-5 pays
la santé,
et chacun en prendrait un et on déciderait de mettre le paquet. Ça veut dire que si on décide qu'on fait les batteries dans le nord de la France, on n'affecte pas de financement ailleurs. Et qu'on dit, par exemple, les processeurs, c'est à tel endroit. Si c'est en Allemagne, ça veut dire qu'on va peut-être moins financer Kroll. Bon, c'est des décisions politiquement difficiles. Mais malheureusement, c'est la seule façon de pouvoir faire les choses.
Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire d'Iris Carré, donc, qui serait la constellation européenne.
Oui.
Bah, visiblement, l'Allemagne travaille sur un projet concurrent.
Oui. Et d'une autre génération, en plus. Une génération un peu plus avancée.
Voilà. Mais comment on va s'en sortir, en fait? Parce que, on voit que les batailles d'égo, parce que tout ça, c'est de l'égo.
Ça joue aussi.
C'est son précaré. On n'arrive pas à être un continent comme, par exemple, les États-Unis le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des États, malgré tout. Oui. Mais quand il y a une décision qui est prise, elle est prise de manière, elle est prise à l'unisson. Là, pour nous, c'est d'une complexité incroyable.
Politique.
Et ça devient même une compétition.
T'imagines le politique qui va accepter de dire, tiens, les batteries, finalement, on va les faire dans le nord de la France, mais tu vas avoir les politiques allemands qui vont dire, ah oui, donc vous laissez ça. Et nous, on va dire, bah, nous, du coup, cette partie-là, je sais pas, les data centers, on va aller, on est bien parti chez nous avec l'investissement sur la banque, mettons un certain type de composants, de mémoire RAM, tiens, on va se faire de la mémoire RAM, on va laisser ça aux Allemands et aux Roumains, enfin voilà, on va laisser ça à l'Est. Mais t'imagines en France, tu vois, aujourd'hui, avec les politiques et tout ça, oui, qui vont dire, ça y est, je sens mal tout ça. C'est parce que ça va être de dire, ah oui, donc cette usine, on la laisse s'installer en Roumanie au lieu de la mettre en France. Là, pour un politique, ça va être compliqué, hein, d'accepter ça.
Mais il va y avoir deux sujets compliqués pour les politiques, à mon avis. Il y en a un premier qui est qu'ils continuent à proposer, en tout cas en France, une équivalence installation d'infrastructures égale création d'emplois. D'abord, les emplois, ça ne se crée pas, ça ne s'invente pas, ça répond à un besoin. Et il se trouve que le besoin d'emplois dans ce type d'infrastructure, c'est un très petit nombre d'emplois très qualifiés. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre la question du chômage. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le juge de paix, à la fin, ça va être le pognon. Et les Allemands sont dans une situation budgétaire qui leur permet de dégager des montants d'investissement considérables. En France, on est à l'os. Et une des difficultés, difficultés de Telsat aujourd'hui sur les projets Iris Carré, c'est que l'État français, qui était censé soutenir ce projet et le financer, n'a plus un rond. Quand tu te retrouves à gérer en parallèle des relations complexes avec tes deux grands partenaires naturels qui sont Airbus d'un côté et de l'autre Thales, qui eux ont des agendas complètement différents, ont des profitabilités sur d'autres segments. Thales croule sous les commandes, donc arriver à monter l'équation sans injection de capital, c'est horriblement difficile pour le patron de Telsat.
Je vous propose qu'on enchaîne avec un autre sujet intimement lié à tout ça, parce que l'Europe en ce moment, ils sont remontés comme des pendules. La dernière info sur ce sujet, c'est le Parlement européen qui débranche Google et le moteur de recherche qui va disparaître en fait des navigateurs, des fonctionnaires européens. Alors, je ne sais pas combien ça représente de personnes, en fait. J'imagine que c'est plusieurs milliers, un minimum.
Quelques dizaines de milliers, probablement.
Peut-être quelques dizaines de milliers. Donc, leur moteur de recherche, à partir de demain, parce que c'est demain que c'est mis en place, le DSI va avoir du boulot cette nuit, je pense. À partir de demain, lorsque ces fonctionnaires européens travailleront sur leur PC, ils auront comme moteur de recherche non plus Google, mais Quant.
Voilà. Par défaut. La question, c'est combien reviendront ?
Alors, c'est non obligatoire, c'est-à-dire que le gars, il se dit « Oh là là, c'est Quant ! Oh non, pas Quant !
Ça marche pas, je reviens.
Je remets sur Google. »
C'est que sur Edge et Firefox. Hein. C'est que sur Chrome, tu continues.
Voilà, tu peux continuer. Parce que tu peux avoir Chrome sur ton PC. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça va. Mais c'est presque symbolique, cette histoire-là. Mais vas-y Fred,
le symbole est fort quand même, c'est de dire on peut
cliquer, mais c'est pas nouveau Fred, ça fait des années qu'on connaît ça.
Nous on connaît ça en France, hein, puisqu'en 2018 c'est
combien d'administrations sont passées à quoi,
ministère des armées,
dans la douleur d'ailleurs, hein.
la DINUM en 2020 qui a dit à tout le monde qu'il fallait mettre par défaut le moteur Quant. Bon, là je pense que les gens utilisent beaucoup quand même, continuent beaucoup à utiliser Google, surtout que maintenant qu'il y a un Gemini qui vient se rajouter là-dessus. Mais moi, je pense que c'est plus le signal, parce que la chose, c'est de pas se dire est-ce que Quant est meilleur que Google. Non, Google est meilleur, plein de choses.
C'est
de se dire on est en train de travailler sur une souveraineté numérique. Et alors, comme le disait Philippe tout à l'heure, on s'y prend peut-être 10-15 ans trop tard. Mais bon, se dire que peu à peu on pousse des pions comme ça. On a eu les histoires des satellites l'air avec les fréquences satellites, deux tiers des fréquences satellites qui vont être en orbite basse, qui vont être réservées à des opérateurs européens ou des startups émergentes. Enfin, c'est en projet. Je trouve que peu à peu, on pousse des pions et puis on va finir par y arriver.
Philippe, Après Christophe.
Moi, vas-y, vas-y.
Ou Christophe, vas-y, vas-y, non, Christophe, et puis après Philippe.
Non, moi, j'ai cru que c'était un canular, hein, parce que je me suis dit, quand, tu veux, c'est une bataille, ils ont 15 ans de retard. Tu veux, je trouve que je comprends la symbolique, j'entends ce que tu dis, mais je trouve que le symbole, justement, je pense que ça décrit un peu la démarche. En plus, c'est pas du tout, dans la réalité, c'est pas obligatoire, les gens vont pouvoir remettre comme c'était. Ça me paraît. Ça me paraît pas être la priorité. Si je devais pousser à l'utilisation, peut-être qu'il faudrait dire, vous n'avez plus le droit d'utiliser ChatGPT, vous devez utiliser Mistral. Ça aurait plus de sens, si tu veux, parce qu'on est quand même sur des technos nouvelles émergentes sur lesquelles il y a encore de la compétition. Oui. Là, ça me paraît un peu surréaliste et je pense que ça va même nous desservir parce que l'expérience, tu le dis, c'est moins bon. Moi, je ne connais pas bien Quant, mais je pense que les gens...
Tu devrais l'installer,
leurs habits. Je suis pas fonctionnaire européen. Hein.
Non, mais juste par curiosité
je devrais
technologique,
faire.
Tu devrais t'y mettre.
Il garde moins d'historique.
Voilà, voilà. Et puis, je pense que ça va faire un flop. C'est et toujours, je pense que ça dessert avec, un peu plus qu'autre chose.
C'est toujours avec Bing, Quant. Parce que, rappelons
non,
que le moteur technique de Quant, pendant un moment, c'était Bing.
Non, mais ça, c'est un premier point. C'est que la clé dans un moteur de recherche, alors il y a tout l'habillage, l'ergonomie, etc., la protection des privés, et ça, c'est quand tu as fait un travail tout à fait louable. Mais le nerf de la guerre, c'est le moteur, et le moteur, c'est l'index. C'est-à-dire la capacité d'aller indexer le web proprement.
Bien
et
sûr.
Pendant très longtemps, quand tu avais un accord avec Microsoft sur Bing, qui a été.
Ça, c'est à cause de Christophe, hein, oui, j'en suis sûr. C'est à cause de lui.
Oui, c'était un compte. Oui, ça a rapporté beaucoup d'argent. Ce contrat a été dénoncé ou modifié. Donc, Quant aujourd'hui est allié, je crois d'ailleurs, à un de ses concurrents français qui est devant lui, qui est Ecosia, parce que, on peut rappeler les chiffres, hein, Quant, c'est 0,92% de part de marché en France.
Ecosia, c'est pas les Allemands.
Ecosia, c'est. Oui, c'est peut-être les Allemands, pardon, j'ai dit une bêtise. Ecosia, c'est 1,29.
Ils ont signé un accord avec Ecosia.
Mais ils sont en train de construire un index commun.
Stan.
Mais qui n'est pas encore complet. Donc,
ça veut dire que c'est moins efficace, ça marche moins bien.
Peut-être. Moi, toujours en termes de chiffres, parce que pour moi, il n'y a que ça qui compte à la fin. Ce serait intéressant, c'est d'avoir une publication par le Parlement européen dans un an, de savoir quel est le pourcentage effectif d'utilisation. Parce que jusque-là, c'est comme si à l'Assemblée nationale, on remplaçait le coca par une limonade artisanale. À la buvette, personne n'est obligé d'en boire, mais au moins tout le monde comprend le message. C'est un message. À ce stade, il faudra qu'on regarde s'il a été suivi.
Tu me posais la question, est-ce que ça le compte? Je te dirais, j'utilise quasiment plus Chrome, j'utilise Perplexity. Enfin, j'utilise des outils. Je suis passé à une autre génération d'outils.
Oui, tu es passé à la vitesse supérieure.
Tu vois, je trouve que c'est... je comprends, c'est symbolique, mais je ne suis pas sûr que ça sert. J'entends que ça peut être potentiellement un message, mais j'aurais préféré que ce soit sur des choses un tout petit peu plus... dans la nouvelle vague des technologies.
Oui, non, puis moi j'en reviens toujours à mon histoire des 27 pays. Bon, tu as Ecosia qui est allemand, ils ont signé, ils sont alliés avec Quant pour faire un moteur qui s'appelle Stan, mais bien. Tu as Metager aussi, ou Metagir, enfin en Allemagne. Les Pays-Bas, ils ont aussi un moteur de recherche. Enfin, tu vois, tout le monde, ils vont dire, pour qu'on prend Quant, là aussi, il va falloir voir comment tout ça se...
Alors, il y avait un truc qui s'appelait Exalead aussi à l'époque, ça n'existe plus.
Ah, Exalead, ça a été racheté par Dassault Systèmes.
C'est un moteur
de recherche, oui.
Oui, mais tu vois, c'était un moteur de recherche. Mais en fait, c'était un moteur d'indexation extrêmement puissant et Dassault Systèmes l'a acheté pour faire de l'indexation.
C'était plus de l'intranet. Les anciennes de Exalead, alors François Bourdon qui est resté chez Dassault, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais les anciennes d'Exalead sont ceux qui ont monté Dataiku.
Ok.
Enfin, toute la bande.
Là encore, on se rend compte qu'on avait les talents finalement, si on avait appuyé sur le bon bouton au bon moment.
Attends, ce que dit Frédéric et moi me semble hyper pertinent, c'est...
Pour une fois.
Parce que Frédéric va au fond, il n'a pas touché. Non, mais justement, on avait des talents, ils ont compris que c'était une bataille sur laquelle c'était pas la peine de continuer à envoyer des gens se faire massacrer. Et ils sont très intelligents, ils ont très intelligemment changé le terrain de jeu, les uns en partant sur de l'indexation documentaire très puissante en entreprise, les autres montant DataIQ. Ils ont gardé cette fibre et cette compétence, mais ils sont allés l'appliquer à des endroits où personne n'était encore allé.
Et il y avait un concurrent, je suis en train de le chercher, qui a été racheté par Chaps Vision. Un concurrent français, c'était...
De moteur de recherche
d'Exalead.
D'Exalead. Enfin,
moteur de recherche pour entreprise. Hein. Exalead, c'était quand même pour entreprise.
Non, les moteurs de recherche, ça a eu des vies quand même. Souvenez-vous d'Alta Vista qui, à un moment, a été...
Cinequa.
Cinequa.
Mais Jean Ferré, exactement. Ferré, qui est parti chez Microsoft après, qui est revenu. Et
Jean Ferré.
Oui, Jean Ferré.
Très bien.
Et qui... Je vois.
Non.
Quelle est belle ma montagne.
Stop. Non, parce que là, on va remonter dans l'histoire des moteurs de recherche jusqu'en 1945.
Non, non, mais
le premier moteur de recherche.
Non, mais on en avait deux très bons, Sinequa et donc Exalead racheté par Dassault Systèmes.
Oui, oui.
Et Sinequa a été racheté par une très belle entreprise aujourd'hui qui s'appelle ChapVision.
D'accord.
Et qui a un bon exemple de consolidation d'acteurs. Oui.
Pour être un acteur.
ChapVision qui est un peu le concurrent de Palantir finalement.
Oui, qui a cette ambition-là. Il a des briques qui ressemblent à Palantir, des briques de cybersécurité.
Le dirigeant, il est incroyable.
Oh là là, mais que de savoir, que de connaissances sur ce plateau.
1940, c'était les pages blanches et les pages jaunes.
Mais bien évidemment.
On avait des moteurs de recherche.
Mais bien sûr. Merci, en tous les cas, pour ce grand moment. Vous savez quoi, on va marquer une petite pause et revenir pour cette deuxième partie du débrief de l'ActuTech dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, avec toujours les maîtres Frédéric Simotel, Philippe Devost et Christophe Holnet. À tout de suite. Merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.